Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce dernier épisode de la saison, nous aurons Toki, Guilty Gear Petit 1 et 2, California Games, Wind Jammers, Tailspin et un dossier sur la commercialisation des jeux vidéo en Corée du Sud. Bienvenue sur Rétrovision. Toki est un jeu de plateforme action sorti sur arcade en 1989 et développé par TAD Corporation, ayant pour titre original Juju Densetsu. Toki, le terrible singe, était un homme, jusqu'au jour où sa copine lui a été enlevée sous ses yeux par un sorcier maléfique qui transforma le beau gosse en bouffeur de bananes, mais celui-ci est bien décidé à retrouver sa belle. Toki ne mange donc pas que des bananes, enfin, très peu. Il peut aussi sauter sur n'importe quoi, sur les ennemis en premier lieu, tirer des boules de feu, mais ce n'est pas tout, car en cours de niveau, Toki peut ramasser un casque de footballeur, des baskets, mais aussi d'autres tirs comme plusieurs boules et des bonus. Réalisé par TAD, petite boîte nippone à qui l'on doit déjà le célèbre Cabal, Toki est aussi bien programmé que ce dernier. Mieux même, puisque les écrans sont très détaillés avec des parallaxes en arrière-fond. Pas de ralentissement, plein de couleurs et des musiques très entraînantes qui sont devenues cultes depuis. L'animation est bonne, excepté celle des personnages qui n'est pas suffisamment travaillée, mais rien de catastrophique. La difficulté est très élevée et chaque niveau doit se connaître par cœur puisque les ennemis n'hésitent pas à surgir à l'improviste et parfois il faudra ramasser un bonus, genre le casque de footballeur, pour affronter le prochain ennemi. Et ça, si on ne le sait pas, on peut zapper un objet et se retrouver avec un passage très très coriace. Les boss aussi sont assez délicats, même s'il y a toujours un truc, il faut, en règle générale, tirer très très rapidement et bien se positionner. Le dernier niveau, quant à lui, est un cauchemar, dans la mesure où l'on n'a que 5 crédits pour le finir et un temps limite pour le dernier boss. Toki n'innove pas mais propose un résultat tout à fait à la hauteur du genre. Son faible nombre de niveaux permet à ceux qui ne sont pas attirés par ce genre de jeu de pouvoir le finir en une poignée d'heures. Les amateurs de jeux de plateforme risquent de trouver la durée de vie assez légère par contre. Sympa, bon enfant, marrant, relativement court mais assez dur, Toki est un bon jeu de plateforme qui dispose de tous les éléments qu'on est habitué de trouver dans ce type de jeu. Sa réalisation finira de convaincre les plus sceptiques puisqu'il est aussi bien réalisé qu'un jeu Capcom par exemple. S'il est devenu une référence, c'est parce qu'il s'agit d'un jeu très soigné qui a bien vieilli. A noter l'excellente conversion sur Atari ST, la jouabilité et les bruitages sont très similaires à l'arcade, même si bien sûr, la maniabilité y perd un peu en rapidité et en précision. Guilty Gear fait partie de ces rares jeux de baston qui ont réussi à s'imposer comme une référence dès son premier opus. Avec son univers et ses personnages peu conventionnels, sa bande-son généreuse en riffs de guitare électrique et sa difficulté épicée, le jeu a réussi à se forger un noyau dur de fans. Et c'est avec un certain étonnement que l'on verra débarquer cette série sur la petite nomade de Bandai, la Wonder Swan. Essentiellement basée sur le premier opus, les développeurs ont dû lâcher du lest pour adapter le jeu sur la portable. Ainsi, le nombre de personnages passe de 10 à 6. En compensation de cette coupe sombre, l'un des persos, Fanny, est un protagoniste totalement inédit. Elle restera d'ailleurs exclusive à la Wonder Swan. Il ne faut pas penser que cette version est une adaptation au rabais. De nombreux modes de jeu sont présents. Story, Training, Time Attack et Versus. Le déroulement du jeu reste identique à ses aînés, bien que la jouabilité ait été adaptée à la console. Il y a ainsi un bouton pour les coups de pied, l'autre pour les coups de poing. Tous les coups spéciaux sont là, ainsi que la possibilité de faire des combos ou de faire des furies meurtrières. Il faut bien admettre que le jeu s'en sort relativement bien pour son passage sur portable. Les graphismes sont lisibles, les décors détaillés et les persos en SD sympathiques. Niveau sonore, c'est déjà un peu plus contrasté. Les musiques ont fatalement perdu de leur mordant sans la guitare électrique qui caractérise si bien la série et les bruitages sont discrets car peu nombreux. Si la maniabilité est bonne, la croix directionnelle de la WonderSwan devient un véritable supplice pour le pouce des joueurs dès qu'il s'agit d'essayer de sortir un coup spécial. Heureusement, les gars de chez Arc System Works ont pensé à tout en fournissant avec le jeu une pastille en plastique à coller sur la croix directionnelle pour améliorer la maniabilité. Certes, cela épargnait bien des souffrances au pouce, mais les coups spéciaux ne sortaient pas plus facilement pour autant. Si ce Guilty Gear est un excellent jeu, sa maniabilité perfectible et son manque cruel de personnages laissera le joueur sur sa faim. Partant de ce constat, Arc System Works sortira la même année Guilty Gear Petit 2, qui s'avérera être plus une grosse mise à jour plutôt qu'une véritable suite. Le panel de perso passe de 6 à 13, allant jusqu'à 18 en débloquant les personnages cachés. Le jeu de base sur Guilty Gear X améliore la maniabilité avec des coups spéciaux qui sortent plus facilement et propose toujours des graphismes détaillés malgré les personnages ayant subi une très légère baisse de taille. Tout cela reste toujours aussi lisible. Les bruitages sont également plus nombreux. Il est donc évident que ce Guilty Gear Petit 2 efface les lacunes de son prédécesseur et se place comme le meilleur jeu de combat sur WonderSwan, ce qui n'est pas bien dur vu leur nombre réduit sur cette plateforme. On continue cet épisode estival avec un jeu mondialement connu, California Games, sur Lynx, sorti en 1989 et édité par Atari. Il s'agit là d'un énième portage pour ce titre, le plus porté d'Atari. En effet, celui-ci est sorti sur pas moins de 15 machines, c'est pour vous dire. Enfin bref, donc nous sommes en face d'une simulation sportive, mais ce n'est pas une simple compilation comme on pouvait le voir dans Decathlon d'Atari ou Track and Field de Konami, dans lesquels on trouve des disciplines olympiques. Pour commencer, le BMX est une simple course où il faut cumuler des points tout en évitant des obstacles. Assez dur car la vue du jeu permet difficilement l'anticipation des obstacles et on se retrouvera plus d'une fois au sol après une très longue chute. Dans la vraie vie, ça doit faire mal. Le surfing, autrement dit le surf, il s'agit d'une course contre la montre et contre la vague pour faire un maximum de points. Cette épreuve est super rafraîchissante et on prend vraiment du plaisir à faire sauter le surfeur et lui faire faire des 360 et autres, tout en se positionnant assez loin du rouleau pour ne pas boire la tasse, bien évidemment. Cette épreuve est pour moi l'une des plus simples à apprivoiser et qui vous laissera certainement un souvenir plus fort que les autres. Après, vous aurez le droit au Half Pipe. Il faut entendre par là une discipline avec une planche à roulettes. Le but est, comme dans toutes les épreuves, de faire un maximum de points dans un temps imparti. Là aussi, l'épreuve est assez difficile, mais après un bon temps d'adaptation, le jeu est tout à fait faisable. Et le fait de la profondeur dans le demi-tuyau vous donnera un peu plus de difficulté. Cela reste une épreuve assez sympathique. Puis nous avons le droit au footbag, mi-football, mi-jonglerie, car vous devrez faire rebondir le footbag sans qu'il ne touche le sol. Le footbag, aussi connu sous la marque Akisak, est un petit sac rempli de minuscules billes de plastique, voire même de plomb. Donc le but sera de faire des combos de points, et pour ce faire, vous aurez la possibilité de vous servir de votre tête, jambes, pieds, genoux, mais en aucun cas les bras. Et oui, c'est de là que l'on voit que c'est à mi-chemin entre la jonglerie et le football. Cette épreuve vous permet aussi de vous retourner pour faire encore plus de points, mais gare aux oiseaux qui modifient la trajectoire du footbag. Petite surprise intéressante, le jeu est jouable jusqu'à 4, pour peu d'avoir 4 copains équipés de Lynx et de la cartouche, bien entendu. Graphiquement et musicalement, on peut dire que le jeu fait quand même honneur à la Lynx, sans bien sûr lui faire sortir les tripes. Mais il reste un titre plaisant et divertissant, je conseille donc ce jeu à tous ceux qui ne le connaîtraient pas. L'été est enfin là, avec lui la promesse de longues journées sur la plage à bronzer, nager ou faire du sport sur le sable. Néanmoins, le sable, ça colle partout. Le soleil brûle la peau, l'odeur de la marée basse vous donne la nausée, et de toute façon, vous êtes agoraphobe. La seule idée de vous retrouver parmi tous ces gens vous file déjà des sueurs froides. Mais n'aie crainte, jeune rétro-gamer au teint blafard, car Data East a pensé à toi. Oui, toi. Et aux autres joueurs qui passent leur été à l'abri du soleil, au fond d'un sous-sol ou dans la pénombre d'une salle d'arcade. Car vous pourrez aussi vous adonner aux joies des sports estivaux avec Windjammers. Ce jeu, sorti au début de l'année 1994 sur NVS et AES, vous propose de disputer une compétition de frisbee assez particulière. À 1 contre 1, le but sera d'envoyer le projectile volant dans la zone de points adverses. Cette zone comporte deux couleurs distinctes. La partie jaune vous fera gagner 3 points, la partie rouge 5 points. Le but étant d'être le premier à marquer au moins 12 points. Pour ce faire, le joueur pourra employer tout un tas de techniques afin de prendre son adversaire de vitesse. Lancer simple, rapide ou courbe et ricochet. Vous disposez même d'une attaque spéciale pour faire passer le frisbee en force. Toutefois, l'adversaire pourra stopper cette attaque, voire la renvoyer contre vous. Le jeu propose un choix de 6 personnages classés en 3 catégories. Les personnages lents mais puissants, les persos rapides mais faibles et les persos équilibrés. Vous disputerez les matchs sur 6 terrains différents. Certains d'entre eux ajouteront des éléments au décor pour pimenter les matchs, tels que des poteaux centraux où votre frisbee pourra ricocher, prenant votre adversaire ou vous-même à contre-pied. En mode solo, vous pourrez essayer deux bonus stages. Le premier, où vous devez lancer le frisbee le plus loin possible avant que votre chien ne le rattrape, et le second, où vous devrez faire un maximum de strikes comme au bowling. Loin d'être un chef-d'œuvre technique, Windjammers propose une réalisation correcte, tant dans les graphismes que sa musique et sa maniabilité. Les seuls véritables reproches que l'on pourrait lui faire sont la durée relativement courte des matchs, tant dans le nombre de points que le temps alloué aux parties, ainsi que le manque de diversité des personnages et des terrains. Nerveux et addictif, le titre de Data East fait partie de ces jeux que l'on pratique pour le fun et dont on ne se lasse jamais. Mais est-il encore nécessaire de le démontrer que les idées les plus simples sont toujours les meilleures ? Malheureusement, le jeu n'a jamais connu de suite ou d'équivalent. Il existe néanmoins un clone sur PC, Crazy Power Disc, reprenant les mêmes mécaniques que son modèle. Ce titre offre d'ailleurs une réalisation de bien meilleure facture, mais ne propose que 5 personnages. Cette erreur sera rattrapée avec sa suite, Crazy Power Disc Perfect, disposant désormais de 9 protagonistes. Alors pour tous les amateurs de Super Baloo, s'il y en a parmi vous bien sûr, je vous présente un jeu tiré de la série animée des années 90. Tailspin, sorti en 1992 en Europe sur Mega Drive et édité par Sega, est un jeu d'action qui, je pense, a dû en énerver plus d'un. Pour commencer, il faut savoir que le jeu a été porté sur différents supports, sur NES, Game Boy, Game Gear et même PC Engine. Et ce n'est pas le même d'une version à l'autre, car les versions Sega ont été réalisées par Sega, bien sûr. Les versions Nintendo par Capcom, comme tous les jeux Disney, sur support Nintendo à l'époque. Donc on ne peut pas dire que les jeux soient de qualité égale, mais dans le cas qui nous intéresse, nous nous préoccuperons uniquement de la version Mega Drive. Baloo et Kid vont faire face à la compagnie de Shere Khan à un concours pour gagner un contrat de travail pour toute une vie à la ville de Cap Suzette. À chaque début de partie, vous pouvez choisir entre Baloo et Kid. Les personnages n'ont pas les mêmes aptitudes, même si d'une manière générale, ils se manient de la même façon. Leurs armes diffèrent, pour Kid, il s'agit d'un lance-pierre qui permet de tirer des boules vertes, et Baloo, une balle rouge accrochée à une raquette comme un Jokarios. Vous devez dans chaque niveau trouver un nombre de caisses déterminées pour pouvoir quitter le niveau. Rien de bien difficile, me direz-vous, mais le problème, c'est que le level design est assez particulier, et il faut parfois recommencer plusieurs fois le niveau pour localiser toutes les caisses. De surcroît, le maniement un peu lourd des personnages fait que le jeu est assez difficile. Les passages où l'on se trouve dans l'eau sont assez déroutants. On manie mal le perso et on ne voit pas grand-chose, et pour couronner le tout, on est attaqué par des crabes voraces. Bref, le jeu est d'une manière générale assez injouable. Pour relever un peu tout ce que je viens d'énumérer, de mauvais bien entendu, précisons qu'il existe un mode 2 joueurs où vous devrez coopérer pour trouver les caisses. ce qui permet au soft d'avoir un second souffle, car il est toujours plaisant de pouvoir jouer un jeu de plateforme action avec un copain, voire avec une copine. Bref, les graphismes ne sont pas magnifiques, mais ils ne sont pas non plus les plus laids qu'on ait vus sur Mega Drive. Les musiques ne sont pas mauvaises et les bruitages rendent plutôt bien. Un jeu moyen qui ne vous fera guère passer plus de 15 minutes au grand max avec celui-ci. C'est dommage, car avec un tel dessin animé, on aurait pu vraiment avoir un jeu super intéressant, surtout quand on voit le travail des programmeurs de chez Sega sur Quakeshot. Durant la première moitié du XXe siècle, le Japon mena une politique de colonisation hostile, notamment en Corée et dans certaines provinces de Chine. Dès 1910, la Corée est annexée par le Japon, qui en fait une réserve de matières premières, menant une politique parfois agressive envers la population, et ce, jusqu'en 1945, et la capitulation de l'archipel nippon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Suite à des décennies de résistance coréenne et de répression militaire japonaise, le pays mit en place un boycott des produits culturels japonais. L'importation de livres, mangas, films et musique est strictement interdite. Dans ce contexte, la toute naissante industrie du jeu vidéo est un cas à part. Car si les jeux peuvent être considérés comme biens culturels, ce n'est pas le cas des consoles, qui restent de simples gadgets électroniques. Ainsi, l'interdiction touche les premiers, mais pas les seconds. Pour passer outre l'interdit, les distributeurs du pays ont ainsi eu recours à une petite astuce technique. La norme vidéo en Corée du Sud étant le NTSC, il leur a suffi d'importer les machines et les jeux en version nord-américaine. Les jeux étant en anglais et les consoles rebadgées, plus rien n'interdit leur commercialisation. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir la répartition de ce marché selon les fabricants, ainsi que les noms et designs dont se sont vus affubler nos chères consoles. C'est la société Hyundai qui se charge de la distribution des consoles Nintendo avec la gamme Game Boy. Nous avons donc la Game Boy, Super Game Boy et Game Boy 64. Le design des boîtes représentait très souvent celui utilisé en Europe dans un premier temps, avant de finalement adopter celui des versions japonaises par la suite. Pour Sega, c'est Samsung qui s'y colle, avec des choix de noms parfois douteux. Le Master System est ici renommé Game Boy, et la Mega Drive devient la Super Aladdin Boy. La firme Daewoo s'occupe quant à elle de la PC Engine, et également du standard MSX avec des versions consolisées au design pas toujours inspiré. La société Lucky Gold Star, plus connue sous les initiales LG, a elle aussi fabriqué des consoles. Ces déclinaisons du standard 3DO sont une exception, comparée aux précédents cas cités ici. La technologie 3DO ayant été développée aux USA, elle n'entre pas dans le cadre de ce boycott. Cette véritable résistance face aux jeux nippons influencera grandement les joueurs coréens qui se tourneront donc vers les jeux occidentaux et son support phare, le PC. L'interdiction d'importer les produits culturels japonais fut levée progressivement entre 1998 et 2004. Depuis, chaque constructeur et développeur japonais distribue ses produits officiellement et librement sur le territoire sud-coréen. Certains éditeurs ont même ouvert des filiales dans leur pays, à l'instar de Capcom avec sa branche Coco Capcom. Le pays a également mis en place une signalétique comparable à l'ESRB nord-américain ou au PEGI européen. Malgré la libre circulation des jeux consoles sur le territoire, les Coréens restent avant tout attachés aux jeux PC, essentiellement aux jeux massivement multijoueurs en ligne.